Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. Nous sommes en direct de 19h à 20h, l'émission sera rediffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère dans les prochains jours. Je suis Camille et je suis accompagnée ce soir de Chloé qui est en régie.
Bonsoir.
Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Onza et Mathieu, qui sont bénévoles chez Zero Waste Marseille.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dans la première partie, on va se concentrer sur Zero Waste. Et dans une deuxième partie, après la pause musicale de 19h30, on va parler des déchets. Alors, pour commencer, Onza et Mathieu, je vous propose de vous présenter, de présenter votre parcours. Comment vous êtes arrivé chez Zero Waste Marseille en tant que bénévole et en quoi consistent vos missions bénévoles?
Ok.
Qui veut commencer?
Allez, vas-y Mathieu.
Je commence. je vais commencer par le parcours pré-Zero Waste rapidement. Parce que le zéro déchet, ça ne parle pas encore forcément à tout le monde. Et moi-même, j'ai grandi en ne me posant pas trop de questions. Je triais, tout allait bien. Et en fait, en regardant de plus près la question de l'écologie, je me suis rendu compte en particulier que on mettait tout sous le tapis, presque littéralement. En fait, nos déchets disparaissaient magiquement. Et tout allait bien. Et en fait, ça n'allait pas si bien que ça. Et du coup, j'ai rencontré Zero Waste aux réunions mensuelles qui se faisaient au Zoomail à l'époque. Et ça m'a plu directement parce qu'il y avait un contact direct, des actions qu'on pouvait faire tout de suite et en même temps aussi une volonté d'action envers les institutions, le global. Et voilà, ça m'a intéressé, j'avais envie, à l'époque j'avais plein d'envie et c'était l'occasion d'agir directement dans l'espace public pour faire évoluer une situation un peu compliquée.
Ouais. Compliqué, ouais. moi, je m'appelle Onza, donc je suis bénévole aussi dans l'association Zero Waste Marseille. Moi, c'est un parcours un peu plus différent parce que j'ai grandi, pas en France, mais à Madagascar. Donc, pourquoi c'est intéressant, c'est que là-bas, c'était un pays au début qui vivait presque dans zéro déchet, donc zéro gaspillage, zéro déchet. Il n'y avait pas beaucoup de plastique, tout était en vrac. Il y avait des contenants, enfin, on allait acheter notre bouteille, enfin, de l'huile en vrac par exemple. Et j'ai vu vraiment arriver vers mon adolescence l'arrivée du tout plastique. Enfin, je l'ai vraiment vu de mes yeux et là j'ai été en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est un truc bien sûr, une mode occidentale qui est arrivée là-bas comme imposée à la population. Et dans un pays où on n'a pas du tout la possibilité de gérer correctement ces déchets, parce que c'est des déchets nouveaux, il n'y a pas d'installation faite pour les gérer. Donc ça finissait partout, dans la ville, sur les rues, partout, dans la mer, dans les rivières. Et là, franchement, c'était une catastrophe, quoi. Donc après, voilà, il y a eu un petit aparté de ma vie où du coup j'ai fait mes études, je suis arrivée en France, blablabla. Et après, je me suis encore rendu compte qu'en arrivant en France, que bordel, qu'est-ce que les gens consomment beaucoup, trop de choses, et qu'ils gaspillaient trop de choses. Et c'était un peu le mini déclic, même si j'avais déjà un déclic avant. Et j'ai rencontré Zero Waste France, donc plutôt directement notre ONG à Paris, lors d'un festival. Et là, j'ai parlé vite fait avec une fille qui avait sur elle, en fait, plein de sacs. Sacs plastiques, des sacs plastiques remplis de bouteilles et de plein de trucs en plastique en fait. Enfin, c'est la consommation annuelle d'un Français qu'elle portait sur elle. Et là, du coup, franchement, tu vois ça, tu peux pas faire semblant que ça n'existe pas quoi. Donc là, j'ai parlé un peu avec eux, ils m'ont dit ouais, en fait, on a plein de groupes locaux un peu partout. Et après, bon, j'étais un peu restée à Paris et je suis arrivée à Marseille. Direct, le premier truc que j'ai fait, j'ai regardé sur les réseaux où est-ce qu'il y avait un groupe local. Et j'ai trouvé Zero Waste Marseille. Et direct, je suis allée à Zoomail aussi. C'était les rencontres mensuelles où on parlait d'un sujet. Je me rappelle très bien, on parlait de la salle de bain. Et là, je me suis dit, oh, il faut que je remplace tous mes trucs. Et puis voilà, voilà un peu l'arrivée du coup dans l'assaut.
Et depuis combien de temps vous êtes bénévole?
Moi, ça fait presque 3 ans maintenant. Presque 3 ans.
Non, mais ça fait 2 ans, bah, ouais, peut-être même 2 ans.
Je crois qu'on a presque pareil. Hein.
Vous avez commencé à peu près en même temps.
Ouais, je pense.
Ouais, j'ai des trous de chronologie. 2-3 ans, ouais. Parce
qu'on se connaît depuis 2 ans maintenant. Mm. Donc il y a eu un petit. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous faites comme mission au sein de Zero Waste? Ou est-ce qu'il vaut mieux présenter Zero Waste avant de présenter vos missions? Peut-être que les gens comprendront mieux vos missions après avoir présenté Zero Waste.
Ouais, je pense, ouais, un petit peu.
Ouais, on peut aller descendre dans le cadre d'abord et ce qu'on y fait, nous.
Je t'en prie.
Donc, partons, on va partir de très haut, de Zero Waste France, qui existe depuis assez longtemps, en fait. D'abord, sous un autre nom, qui était la CNID. C'était un conseil de citoyens qui était lanceur d'alerte envers les incinérateurs et les décharges. Voilà, ils ont très rapidement vu qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait changer tout ça. Donc ils se concentraient vraiment sur la lutte contre les nouveaux incinérateurs, les nouvelles décharges, tous les problèmes qu'il y avait avec. Et au bout de quelques années, en fait, on s'appelle Zero Waste parce que c'est une ONG qui a démarré en Angleterre et qui a essaimé un peu partout. Donc ils ont pris le nom, mais en continuant toujours le même boulot et en élargissant un peu, en s'associant avec d'autres réseaux, le réseau VRAC, le réseau Action Climat, ce qui leur permettait d'avoir non seulement une influence nationale, mais aussi une influence européenne. Ils sont très présents dans la construction de rapports pour la Commission européenne pour pouvoir justement essayer d'influencer les réglementations à tout niveau, parce que pour l'instant, c'est là qu'on a l'impact le plus direct quand ça arrive à passer. Et donc il y a ce côté très haut, international et national, et ils ont motivé la création de groupes locaux. Est-ce que tu veux enchaîner?
Ouais, il y a de plus en plus de gens un peu partout en France qui ont commencé à voir un peu le mouvement Zero Waste, donc zéro déchet, zéro gaspillage, donc qui est vraiment plus large que juste les déchets, c'est vraiment la consommation et vraiment voir un peu tout ce gaspillage autour de nous. Et donc ils ont commencé à dire, en fait, il n'y a qu'à Paris, et du coup ils se sont mis à construire le premier groupe local à Lyon, et ainsi de suite dans les grandes villes, jusqu'à ce que Marseille, chez nous, du coup, on soit créé en 2017, fin 2017. Et donc là, actuellement, on est 130 groupes locaux dans toute la France, The West Marseille, du coup, on travaille sur plein de thématiques. Pareil, on travaille avec la métropole, donc tout ce qui est. On a des activités avec la métropole où on les accompagne sur des prestations. On a plutôt une dimension publique, grand public, où on les éduque un peu sur comment passer au zéro déchet de manière très terre à terre. Les achats en vrac, achats en vrac, quoi. Et aussi comment éviter les déchets, donc accompagner des familles. Par exemple, là, on va faire un défi qui s'appelle le défi des familles, où on va accompagner 100 familles dans Marseille, dans la métropole, pour réduire leurs déchets, donc de passer on est à combien là, 300, combien, je sais plus.
À Marseille, en total, on est au-dessus de 600.
600 kilos, ouais, par personne, par an, c'est beaucoup. Et on va essayer de diminuer au maximum, quoi.
Et pour trouver les familles, elles doivent candidater. Enfin, c'est des familles qui candidatent, ou comment ça se passe? Si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés.
Ah oui, ah bah c'est bien, c'est le moment de faire la pub. ouais. Oui, en fait, alors il y a une première partie où ce sera la métropole qui a déjà une sorte de
campagne.
Ouais, et après nous, on va faire vraiment beaucoup de com prochainement, dans je sais pas dans quelques semaines, ça va commencer. J'ai pas les dates en tête là, et les gens pourront s'inscrire donc sur notre site internet, je pense il y aura un lien direct ou directement sur le site de la métropole, les réseaux sociaux.
N'hésitez pas à suivre Zero Waste Marseille sur les réseaux sociaux.
On accepte toutes les familles de Marseille à la Ciotat qui ont pris.
Ouais, c'est tout le temps de la métropole, donc c'est assez large. La Ciotat, Aubagne, Marignane.
Ouais.
Voilà. Regardez si vous êtes éligible, venez. Plus on est nombreux, on a une limite de personnes, mais plus c'est divers et plus on vient de territoires différents, plus le défi des familles il aura un résultat efficace.
Ouais.
Voilà, pour eux, c'est une sorte de test.
Ouais.
Et réussissons-le pour les motiver à continuer.
Ouais, c'est un projet pilote, quoi, et puis pour le développer après sur toutes les années qui suivent.
Parce que là, l'accompagnement des familles va se faire sur combien de temps?
Sur 6 mois, quand ils commenceront, vraiment, c'est en janvier que les ateliers, vraiment, ils commencent, où on les suit, on les accompagne, et ça finit en juin.
Donc ça sera une sorte de coaching pour aider les familles à réduire leurs déchets à la source.
Exactement, oui.
Ouais, c'est une ou deux interventions par mois. Une par mois forcément pour chaque famille.
Ouais.
Il y aura quoi, deux, trois événements par mois. C'est des ateliers, des confs, des suivis, voilà, plein de petites animations pour les aider. Un suivi de près de la part des bénévoles. Voilà. Pour essayer de faire le tour du déchet et des solutions pour en créer moins.
Oui, voilà, on va faire un peu les tours des associations qui touchent déjà le domaine. Il y en a plein à Marseille et il faut les faire rayonner.
Donc ça, c'est la grande action qui arrive dans les prochaines semaines. Et quelles sont les autres actions de Zero Waste Marseille?
Là, c'est la rentrée. Donc il y a plein de choses. Le défi de famille, c'est le gros truc. Il y a le mardi, dans deux semaines, il y a l'apéro bénévole. Donc si vous voulez voir un peu comment ça marche dans l'assaut, vous pouvez venir. Donc en plus, on aura des invités surprises de d'autres pays qui seront même aussi là. Ce sera très intéressant. Il faudra parler un peu en anglais, mais voilà, ça va être très très fun comme apéro bénévole. Ça se passe à la base Marseille, donc si jamais il y en a qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je pense qu'on reprendra les rencontres mensuelles assez rapidement aussi. Là. De toute façon, notre agenda, il sera facile à suivre sur Facebook, généralement. C'est là où on fait plus d'annonces.
Oui, il y a notre site internet, il y a tout.
Ouais.
Il y a tout, il y a tout.
En quoi ça consiste, les rencontres mensuelles?
Chaque mois, on choisit un thème. Par exemple, les vacances, la salle de bain, le boulot, les événements sportifs. Et pendant environ une heure, on présente les options, justement... quels sont les principaux déchets, comment on peut les réduire, comment chacun peut agir individuellement, mais aussi influencer le groupe duquel vous faites partie, si vous êtes dans une équipe, un bureau, etc. Et ensuite, ça finit en discussion, apéro. Voilà, y a un début qui est descendant, et ensuite c'est convivial, parce que le but, c'est de se passer des infos, puis
les
de faire ça dans
adresses.
Le fun. Hein. C'est pas, c'est pas matraquant de « faites attention à tous vos déchets ».
On essaie d'être le plus ludique possible. On invite surtout aussi quasiment d'autres intervenants, des associations qui gravitent sur un thème. Par exemple, on avait fait une rencontre sur les vacances, donc on avait invité un citoyen, un Marseillais quoi, qui faisait tout le temps toutes ses vacances que en vélo, et il faisait des kilomètres et des kilomètres. Donc il expliquait un peu comment il s'y mettait, des petites astuces, il a ramené plein de livres, il était trop content. Et en plus, ça, du coup, comme c'est un thème précis, on avait envoyé plein de messages à tous les associations vélo. Donc il y avait Vélo en Ville qui était passé, il y avait un autre mec, je ne m'en rappelle plus, enfin bref. Donc c'est vraiment très, très sympa.
Donc si les auditeurs veulent boire un verre tout en apprenant des choses,
ou intervenir,
faut qu'ils viennent.
Et les bières du Zoma sont super bonnes.
Donc c'est le mercredi, non, en général
C'est le dernier mercredi, tous les derniers mercredis du mois.
Oui, c'est dommage, parce que moi, du coup, je peux pas venir comme je suis à la radio.
Ouais.
Vous voulez pas changer de jour?
On va peut-être tourner ici ou là.
Mais pas ce mois-ci, du coup, là, parce qu'on a un agenda très plein, mais en octobre, on reprend les rencontres mensuelles.
D'accord.
Ouais. Du coup, à côté de ça, on a les rencontres bénévoles qui seront le mardi, on a ces rencontres mensuelles, mais au-delà des prestations... s'il y a des gens intéressés qu'on propose aux entreprises, aux écoles, etc. On essaye le plus souvent, dès qu'il y a une occasion, d'aller faire des stands dans les
événements.
Dans les événements d'associations, par exemple, là, le 11.
Vivacité
sur le Vieux-Port.
Sur le Vieux-Port.
Des fresques des déchets, aussi souvent que possible.
Ouais.
Venez, c'est...
Alors, en quoi ça consiste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas?
Alors, si vous n'avez jamais fait de fresques, parce qu'il y en a plein, donc on fait de la pub pour tout le monde en même temps. Les ateliers fresques sont des ateliers qui durent entre 2h et 3h. C'est des ateliers d'intelligence collective où on a des cartes qui représentent des concepts, des actions. Et on distribue ces cartes à tout le monde. Et le but est, tous ensemble, de poser ces cartes de façon qui nous semble cohérente. Et du coup, de créer une fresque, une espèce de grande mosaïque de comment fonctionne le sujet. Donc le climat, les déchets, le numérique, maintenant il y a la forêt, les océans. Et voilà, ça permet de se sensibiliser en discutant aussi avec les autres, en s'amusant, en prenant le temps. C'est très informatif, on apprend beaucoup de choses.
Ouais. Après, voilà.
Après, il y a l'apéro.
Ouais. Il y a la version courte aussi, parce que ouais. Des fois, bon, deux heures, trois heures, il y en a peut-être certains qui n'ont pas vraiment le temps. Les versions courtes qu'on fait, c'est les versions quiz qu'on met sur les stands et quasiment toutes les fresques ont cette version-là. Et voilà, ça dure, ça dépend des gens. Là, on avait fait une fresque quiz au Delta Festival, donc même les gens bourrés étaient très concentrés, franchement, on a beaucoup parlé avec eux. Et ouais, ça dépend, donc ils peuvent rester 2-3 minutes ou à rester 20 minutes, on avait parlé avec quelqu'un hyper longtemps. C'était super sympa. Il y a aussi les versions enfants, et bientôt, là, il y a la version entreprise aussi qui va sortir. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent être formées de manière un peu plus approfondie sur les déchets, on pourra faire des prestations dessus. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres actions à rajouter à la liste?
On fait des fois des ateliers. On fait des ateliers, ouais. J'ai un peu les ateliers upcycling, couture.
Do it yourself sur les produits.
Ouais, voilà, do it yourself.
Bah, c'est de les relancer. Ça. Ouais, on a fait moins souvent ces derniers temps.
Ouais.
Mais c'est sympa aussi.
Oui, oui, on essaie à chaque fois de coupler avec des lieux en rapport avec l'atelier. Par exemple, quand on avait fait un atelier couture, on est allé à la recyclerie sportive Marseille, donc c'est à Bougainville. Et du coup, il y avait des gens qui achetaient leur objet d'occasion de sport et puis ils allaient faire un tour. Et on avait un monsieur qui s'est réparé son propre manteau qu'il venait d'acheter en bas. Donc il était content. Voilà. En gros, ouais.
Je sais pas s'il y a d'autres sujets.
Bah, des choses qui vont être directement avec le tout public. Je crois qu'on a fait le tour, mais on a quand même d'autres campagnes encore.
Ouais, on a plein de campagnes, ouais.
Donc en plus de ce défi des familles qui va être le gros morceau des temps à venir, on travaille avec les commerçants engagés.
Ouais.
Je ne sais plus quel est notre partenaire là-dessus.
Bah, c'est la métropole.
Oui.
C'est la métropole et les mairies c'est... aussi. Donc là, c'est mairie 7.
7 et 1,
ouais.
7 et 9.
7 bon. Et 1, 7 et 1. On va aller voir en fait les commerçants. Alors, en fait, on a deux campagnes parallèles. On a une campagne à nous qui est la campagne Commerçants Zéro Déchet, où là, du coup, on va identifier les commerçants qui sont déjà un peu engagés dans la démarche zéro déchet, qui n'ont pas d'emballage, qui font attention à leurs fournisseurs, etc., etc., qui font du vrac. Et là, du coup, on les cartographie, on les met sur notre site internet. Et comme ça, les gens, ils ont accès directement à toutes les adresses. Et après, en parallèle, il y a aussi une campagne un peu plus poussée, on va dire, où vraiment il y a un suivi. Donc c'est notre salarié, donc Robin, qui va démarcher en fait ses commerçants et voir avec eux, même s'ils sont pas du tout dans zéro déchet, comment les accompagner le plus loin possible dans la démarche. Et pareil, les référencer et puis y faire un tour de temps en temps pour voir comment ça a évolué. Et voilà, créer une sorte de réseau. Et l'idée aussi avec ce groupe, parce qu'il y a un groupe de travail qui travaille dessus, c'est de faire un lien avec par exemple la roue marseillaise qui eux ils ont un carnet d'adresses exceptionnel, donc on va aller gratter un peu des adresses chez eux pour aller labelliser d'autres personnes, etc., etc. On a parlé avec l'incassable du coup, qui est la consigne qui a revenu à Marseille. Si jamais vous n'avez pas vu, la consigne est revenue à Marseille, c'est très important.
Depuis quand?
Depuis fin d'année dernière.
Ouais, l'année dernière,
ouais. Ouais, depuis janvier du coup. Et la consigne est revenue sur des bouteilles comme les bières, les bouteilles de tout ce qui est biocoop, du vin aussi. Et il y en a de plus en plus. Leurs références, il y en a de plus en plus, ouais. Voilà. Et après, on a parlé un peu aussi, toujours avec les commerçants, c'est Dinette, par exemple. Ça, c'est la consigne pour l'alimentation. Donc lui, il est vraiment en train de vraiment commencer cette autre dimension de la consigne.
Dans la restauration emportée, ouais. Les restaurants, en fait, toute la vaisselle jetable qui s'est énormément développée ces derniers temps, même si elle a essayé de se verdir, ça reste une énorme quantité de déchets. Donc là, ils proposent des contenants à louer en verre, principalement. Et du coup, ouais. Voilà, c'est une sorte de consigne, mais pour des repas directement.
Ouais, parce que si avec le Covid et tout, tout ce qui est... achat, livraison, enfin ça a beaucoup augmenté. Enfin, un chiffre qui répète souvent, c'est que tous les emballages à usage unique, maintenant, c'est que 40%, c'est des emballages à usage unique pour le plastique, en fait. C'est que ça. Donc, c'est beaucoup, si on pourrait éviter les usages, tout ce qui est emballage à usage unique et tout ce qui est à usage unique.
Et pour revenir sur Zero Waste Marseille, ouais. comment l'association s'organise? Onza, tu as parlé tout à l'heure des groupes de travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme groupe de travail, par exemple?
Il y en a plein. Bon, ils ne sont pas tous actifs. Alors, comment ça s'organise? Bah, y a plein de groupes de travail. Donc, y a les commerçants, il y a le groupe de travail pour les fresques, il y a les groupes de travail pour la cartographie, groupe de travail pour... Ouais, c'est bien, voilà. Il me montre un peu la liste parce que j'ai pas tout en tête. On a vraiment beaucoup.
Pour que les auditeurs puissent voir un peu dans quoi ils peuvent, voilà, dans quel domaine ils peuvent faire des missions.
Ouais, il y a des filles et des familles, du coup, on va vraiment être très concentrés dessus. T'as pas tout ouvert là? Ils sont un peu cachés.
Ah oui, non, je les ai pas tous, du coup. Il y a le sport, la sensibilisation dans les écoles.
Ouais, scolaire, ouais, ça reprend pas mal là, du coup, la rentrée avec notre référente, ça va reprendre. Il y a aussi biodéchets. Surtout qu'il y a une date très importante là, 2023,
fin d'année,
toutes les villes de France, enfin métropole, etc., seront dans l'obligation de proposer des solutions de compostage de proximité ou de pouvoir les ramasser. Et puis, si vous avez un peu remarqué, toutes les villes sont en retard. C'est une directive qui est sortie il y a 5 ans. Et notre directrice de SOS France arrête pas de répéter, ça fait 5 ans qu'ils auraient dû commencer, ils ont tous commencé l'année dernière. Voilà. Un petit aparté comme ça. Ouais, il y a le groupe com aussi, si on revient sur les groupes.
Et ça se crée aussi, du coup, on crée un groupe dès qu'il y a un sujet qui est intéressant en fait.
Oui, c'est très très libre. Enfin, s'il y a un sujet qui intéresse quelqu'un, je sais pas. Tout ce qui est sport, c'est pas encore très actif. Et ça peut être très en lien avec plein d'autres assos, comme la récréation sportive.
Le zéro déchet au bureau.
Il y en a pour tous les goûts.
Ouais. Mariage, il y en a une bébé bénévole qui a dit elle va bientôt se marier, donc elle va créer un groupe de travail sur le zéro déchet. Mariage.
Et est-ce que vous savez combien il y a de bénévoles à peu près au sein de l'association?
Alors, il y en a, alors très actifs, je dirais une quinzaine. Ouais. On a beaucoup de bénévoles, mais qui sont très ponctuels. Donc, il y a une trentaine qui gravitent comme ça. On les voit de temps en temps. Ils apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent. Mais bon, c'est totalement normal. En fait, on ne demande pas des engagements très forts. C'est vraiment au temps libre. Donc s'il y en a qui sont dispo, bah, ils viennent. Et s'il y en a qui sont très, très bénévoles à fond, bah, à fond, vas-y, à fond.
Et donc il y a un salarié, Robin.
Ouais.
Et vous allez bientôt recruter un service civique, un volontaire.
Exactement.
En service civique.
Ouais.
C'est le moment, si jamais vous voulez.
Ouais. L'idée en fait, du service civique, je ne sais pas si tu veux en parler. Mais...
Je pense que tu maîtrises mieux le dossier. Je peux lancer si tu veux.
Ouais, l'idée, c'est de faire, d'être chargée de communication. Parce que la communication, c'est le nerf de la guerre pour faire savoir en fait, nos actions. Et il faut pour que les gens nous voient, en fait, il faut qu'on soit présent partout. Et donc, c'est accompagner en fait, tous les projets qu'on a. Défis des familles, commerçants engagés. Les activités de tous les groupes de travail, parce que tout le monde travaille un peu partout à tout moment, donc il faut que quelqu'un soit dessus à fond.
Il y a quelques autres missions aussi au-delà de la com, enfin, il est principalement com, mais on avait inclus quelques autres trucs.
Principalement sur le défi de famille, organiser des événements pour les familles, du coup, chercher des lieux. Faire un peu le relationnel entre la famille, les familles du coup et nous, et traitement de données aussi, de tout ça. Ce sera un gros boulot, traiter les données.
Et vous le cherchez pour quand quand est-ce que commencera
le
volontariat? Le
plus tôt possible.
Il y a l'annonce déjà sur internet ou sur le site du service civique?
Il me semble que en fait
ça doit être dans la semaine, non?
On a sorti l'annonce sur notre site à nous. On attend juste que SOS France, parce que c'est eux qui vont le mettre sur le site officiel pour tout ce qui est service civique, qu'ils le fassent. Et ce sera normalement cette semaine, ou au minimal la semaine prochaine, début de semaine prochaine.
Donc si parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui sont sensibles à la thématique du zéro déchet et qui aimeraient faire un service civique, n'hésitez pas à consulter le site Zero Waste Marseille pour accéder à l'annonce.
On est super cool, on a des nouveaux bureaux. Il y aura grave la place.
C'est vous maintenant à Castellane ?
Ouais, Castellane, ouais. C'est Mathieu qui a visité, donc s'il veut parler un peu des bureaux.
Ah bon, on va en parler deux minutes parce que c'est un joli endroit. C'est, je vais confondre les noms. C'est un étage, il y a quoi, 5-6 bureaux qui sont maintenant techniquement tous pris. Donc, c'est des bureaux partagés. À l'origine, c'est une asso d'informatique, de soutien info, de logiciels libres qui avait pris le bâtiment et qui avait besoin d'un coup de main et de remplir pour payer le loyer. Donc maintenant, il y a une équipe d'architectes engagée, une association qui accompagne les jeunes en difficulté et de eux-mêmes, du coup. Et une quatrième chose que je ne sais plus, désolé.
C'est collectif Mesclin ou un truc comme ça que ça s'appelle ?
Ouais. Voilà, donc joli bâtiment, il y a une cuisine, un jardin et on a littéralement, enfin, j'ai fenêtre sur cour. On a fenêtre sur rue. Vous pouvez nous taper directement et faire coucou à Robin en passant dans la rue. Voilà, joli. D'ailleurs, si vous avez du temps, faut faire un petit peu de peinture. Et si vous avez des meubles, on prend des étagères parce qu'on a plein de matériel à ranger et que des bureaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commodes qui vous traînent, des étagères qui ne servent à rien, proposez-les nous par le site ou un moyen quelconque, ça nous intéresse.
Les réseaux sociaux. Ouais,
parfait. Mmh. Je vous propose qu'on passe à la pause musicale. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique ?
On a choisi Greenwashing de Trio.
Pourquoi ?
Parce que le déchet, il a beau être très matériel. Je pense que la lutte, comme tu disais tout à l'heure, la com, c'est le nerf de la guerre. La grosse lutte qu'on va avoir à mener dans les années à venir, ça va être sur les faux-semblants et la communication. On pourrait faire la liste. Je pense qu'on fera une petite liste après. Voilà, il y a beaucoup de demandes à ce que tout se verdisse. Du coup, il y a de la réponse à ce que tout se verdisse, mais elle est éventuellement plus dans l'aspect et le changement de couleur en vert que vraiment dans la profondeur.
Ouais, c'est comme les fourchettes, les couverts en plastique là qui étaient jetables et qui sont interdits maintenant par la loi, qui sont devenus réutilisables. Ça, c'est typiquement le gros greenwashing débile qui existe partout.
Même produit, même packaging, juste un changement de mot.
Un petit peu de vert. Voilà.
Allez, on lance la musique et on se retrouve après la pause. On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 green
washing.
On se retrouve après la pause musicale sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum avec deux bénévoles de Zéro Waste Marseille, Onza et Mathieu. Donc, on vient d'écouter une musique qui s'appelle Greenwashing de Trio. Donc, je vous propose de parler de greenwashing.
Oui, bah, on parlait vite fait là que c'est un peu le gros sujet actuellement de plein de marques de créer des faux chiffres, des faux rapports avec des chiffres faux, quoi. Enfin, avec mettre un peu de couleur, par exemple Total, si vous avez vu, il s'est refait des petites couleurs arc-en-ciel pour être un peu plus friendly. Enfin, c'est un peu ça le greenwashing. Et surtout, en tout cas, je pense que c'est vraiment problématique pour les consommateurs, les gens, tout simplement, parce que c'est des publicités qu'ils voient partout, à la télé, à la radio, et comme ça passe partout, bah, les gens pensent que c'est vrai. Et en faisant, même en pensant faire bien les choses, en fait, on fait mal parce qu'en fait, on nous ment. Donc, c'est un peu ça le gros problème du greenwashing. Et aussi, ouais, je sais pas si tu veux un peu rebondir dessus.
Ouais, comme tu dis, c'est vraiment une volonté d'arnaquer, en fait, les consommateurs qui ont une envie, qui ont un besoin de que leur consommation soit meilleure, ou même quand on consomme pas beaucoup, que le monde autour de soi s'améliore. Et on nous vend allègrement que tout s'améliore facilement avec plein de super solutions, alors que quand on creuse, ça change pas du tout. L'exemple des couverts était iconique. Mais ça va partout. Mais ça a commencé en plus. Là, il y a une accélération. Je pense qu'on va revenir dessus sur le traitement de déchets.
Ouais.
C'est vrai que la pub, c'est un sujet à part entière.
Ouais.
Mais il y en a qui ont commencé il y a longtemps. Je ne sais pas si combien d'entre vous se souviennent que McDonald's n'a pas toujours été sur un fond vert.
Ouais.
C'est d'abord un fond rouge. Et il y a maintenant quoi, une dizaine d'années, peut-être plus, c'est devenu un fond vert. Les restaurants sont tous en bois sur un gros cœur de ciment. Mais voilà, c'est vachement plus. Et puis maintenant, leurs déchets, ils font attention, ils les jettent, etc. Donc toujours dans la même poubelle qu'avant, de toute façon. Pour ceux qui sont jetés, je pense qu'on a aussi l'habitude d'en trouver autant autour de chez soi que dans ses poubelles.
Ouais.
Voilà, donc c'est vraiment c'est un assaut généralisé, en fait. Ils ont une grande puissance de feu. Généralement, c'est des industries qui ont une énorme puissance de feu. Et qui savent d'avance que ça vient.
Ouais, et surtout, en fait, pourquoi nous, on s'intéresse au greenwashing? Je vais donner l'exemple de, par exemple, les cuillères, là, mais c'est très lié avec le gaspillage, en fait. On incite les gens à consommer, toujours, même mais proprement, mais enfin, faussement proprement. Mmh. Et en tout cas, chez nous, et je pense qu'il y a plein d'autres associations qui travaillent dessus, on lance actuellement beaucoup de campagnes. On est en train de se focaliser justement sur ça. Parce que pourquoi on se focalise sur ça? Parce que maintenant on a les lois qui sont de notre côté. On a la loi GIEC, on a le plan loi finance. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est une loi aussi.
Oui,
ça touche pas forcément globalement.
La loi économie circulaire aussi.
Ouais, enfin voilà, il y a plein de lois qui sortent des décrets qui sont en faveur de l'écologie, mais c'est pas encore assez poussé, et qui sont détournés par les entreprises en faisant des fausses pubs. Par exemple, Coca-Cola qui dit non, c'est pas Coca-Cola, c'est McDonald's encore, McDo, qui dit maintenant on va vous servir dans des plats parce qu'on est écolo. Non, en fait, vous êtes obligé de le faire d'ici 2024. C'est pas que vous êtes trop bien, c'est juste que vous respectez la loi, c'est tout. Du coup,
oui,
c'est un peu une sorte de grime. Voilà, ils se font un peu une pub sur ça, alors que c'est la loi, quoi. Et donc là, par exemple, ce qu'on a fait avec Zero Waste France et tous les groupes locaux, c'est qu'on s'était réunis, on a lancé un gros mouvement qui s'appelle le cyberactivisme, où on se réunit tous ensemble sur notre PC, là, comme ça, et puis on écrit plein de messages avec plein de chiffres très concrets et des sources, en disant sous les pubs que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, voilà. Et plus on est nombreux à le faire, plus ça va remonter un peu. Et aussi, on a porté plainte, du coup, à Adidas et à New Balance. Donc, pourquoi les deux? C'est
juste pour faire un exemple, hein, mais on aurait pu porter plainte à plein d'autres marques, porter plainte que, là, vous avez fait du gros greenwashing. On a sorti donc, tous les rapports là, qu'ils ont sortis, les chiffres ils étaient complètement faux. Voilà. Ils se sont créés un propre label, propre, avec une petite feuille verte, comme ça, en disant « Oui, nous sommes verts », alors que c'est un label qui n'existe pas. Donc, c'est un peu vraiment le gros combat actuel. En tout cas, qu'on s'est dit à notre dernière rencontre nationale avec tout le groupe qu'on va, on va se focaliser dessus. Quoi.
Et pour le, je vais rebondir, puis après faire le lien avec le traitement de déchets. C'est vrai que la création de label, c'est aussi c'est une facette absolument... C'est subtil et vraiment détourné où voilà, on a l'habitude de connaître des labels, leur faire confiance, mais en fait, n'importe qui peut créer un label.
Ouais.
C'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière, qui l'a créé, quels sont les critères, quels sont les machins. Donc c'est toujours rassurant automatiquement de voir des jolis petits labels, mais en fait, ça signifie rarement qu'il y a effectivement quelque chose derrière. Beaucoup de labels sont créés par les associations d'entreprises qui s'auto-donnent le label que tout va bien.
S'auto-félicite.
Et voilà. Et dans le même genre d'idée, parce que le greenwashing, du coup, on a parlé pub, on a parlé communication et apparence. Quelque part, on peut aller voir que ça va plus loin parce que c'est aussi vendre une idée et un modèle de société dans le sens où on propose des solutions ou on redéfinit des solutions qui existaient déjà en faisant penser que c'est mieux qu'avant. Par exemple, il n'y a quasiment plus aucune pub qu'on peut trouver nulle part où c'est pas écrit en bas tout est recyclable, profitez-en. Voilà, des gens qui n'ont jamais changé. Les bouteilles de bière, ont toujours été en verre. Ça fait des dizaines d'années qu'on les met dans le bon truc. Et maintenant, ils en font « Oh, regardez, c'est génial, on est en verre.
Ben, » c'est toujours été comme ça.
Les emballages en alu, alors c'est bien.
Ça a toujours été comme ça.
Mais voilà, vous n'avez pas fait un effort supplémentaire. Bon, c'est une façon de passer au-dessus des concurrents aussi, en mode « on est moins crade ». Voilà. Mais du coup, comme McDo qui disait « Regardez, on suit la loi ». Ça cache souvent des efforts et c'est aussi vendre faites-nous confiance, on va trouver des solutions super géniales, super modernes pour tout gérer et vous avez en fait rien à changer. Suivez juste suivez les bonnes pubs, suivez les bons labels, en gros faites comme avant. Nous derrière on gère, mais quand on fouille, la marge de progression, elle est minuscule.
Oui, en fait, il faut carrément se poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Enfin, c'est même pas l'objet qu'il faut questionner, c'est pourquoi on achète ça, en fait? Ça sert à rien. C'est comme tout ce qui est usage unique, on n'a pas besoin d'acheter un usage unique. En fait, comme ça dure, je sais pas, on tient ça 5 secondes dans la main, en fait, pourquoi ne pas l'avoir? Enfin, parce qu'en fait, ça va rester dans la nature pendant 1000 ans, je ne sais pas combien d'années, ça va polluer partout. Donc vraiment, re-questionner la consommation, oser parler de décroissance, oser parler de sobriété, c'est vraiment ce qu'on a envie de... Enfin, ce qu'on veut passer comme message.
Et quelles habitudes on peut mettre en place alors? Quelles habitudes on peut conseiller aux auditeurs pour tendre vers le zéro déchet?
À chaque fois qu'on achète quelque chose, on a une petite méthode qui s'appelle la méthode bisou. Alors la méthode bisou, c'est une façon de questionner son besoin. Donc quand on va aller acheter quelque chose...
Est-ce que c'est un besoin?
Ouais.
Est-ce que j'en ai besoin immédiatement?
Ouais.
Est-ce que
quelque chose de similaire déjà à la maison? Donc...
Voilà, qui ressemble déjà et qui fait le même boulot.
Ouais.
Est-ce
que son origine, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que ça fait plusieurs fois le tour de la Terre? Est-ce que ça a exploité des humains? Exploité des animaux?
En quoi c'est fait?
En quoi c'est fait? Et U, c'est est-ce que c'est utile? Tout simplement.
C'est juste pour se faire plaisir et satisfaire en fait une pulsion de consommation.
Ouais.
On peut dire, ah si, j'ai besoin de l'avoir. Il y a vraiment une grosse question du quel est le besoin qui fait que dans ta vie et quel est le besoin qui a été créé et qui est éventuellement que dans notre tête.
Est-ce que c'est une pub qui m'a dit qu'il fallait que j'achète ça, j'achète ça.
Voilà, quel va être mon gain de vie d'avoir cet objet plutôt que l'autre et plusieurs fois le remplacer, d'avoir toujours le tout dernier.
Ouais.
Jeter alors qu'il y a un petit accro ou une petite rayure, alors qu'on peut
réparer,
remplacer, décorer.
Ouais, sinon, on a aussi sur notre site internet, j'en ai parlé, notre cartographie. Sur cette cartographie, on recense tout. C'est une cartographie nationale. Hein, on a Marseille, mais dans toute la France, il y a tous les groupes locaux qui recensent les cartographies. Et donc, il y a les commerçants. Tout ce qui répare, donc téléphone, électronique, repère café, les recycleries, tout ça, quoi. Il y a aussi où on peut chercher les stop pubs, plein de trucs. Où on peut poser son biodéchet, donc les composteurs, les jardins aussi, enfin bref.
Bah c'est très utile, hein, même pour nous-mêmes qui, a priori, on pourrait dire, oh, vous connaissez vachement bien. Non, on cherche toujours les adresses. Je vais tricher en utilisant les jolies ressources de Zero Waste France, qui sont très bien organisées.
Ouais, c'est très très bien. Regardez leur site.
Les consulter.
C'est vraiment très 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 bien.
Voilà, et c'est si on veut une série de pas, voilà, après on peut faire des petites anecdotes, mais donc le premier c'était le jetable, effectivement. Mmh. Tout ce qui finit dans une poubelle directement, faut essayer d'éviter. Donc réduire le jetable, composter ses biodéchets. Donc heureusement, si tout se passe bien, très rapidement, on aura des solutions, parce que ça reste quand même pas un truc facile quand on habite en ville. On a rarement des tas de compost à disponibilité à côté de chez nous. Et c'est une énorme partie de ce qu'on jette. On jette beaucoup de nourriture.
Ouais, c'est un tiers de nos poubelles. Ouais. Et surtout, quand on commence à composter, nos poubelles ne puent plus du tout, parce que du coup, ça va au compost. C'est ça, en fait, qui fait puer les poubelles.
Et c'est directement réutilisable. Là, on a vraiment du circuit court où on mange, on jette, ça retourne dans un champ, on mange, on jette. Et
retour à la terre. Redonner à la terre ce qu'elle nous a offert. Ça, j'aime beaucoup ce petit mot, c'est très philosophique.
On va faire les 5-6 R aussi.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
Allonger la durée de vie des objets, du coup, voilà, la réparation. Dès qu'il y a un truc qui ne marche plus trop bien, il y a souvent des objets qui ont juste un petit bout qui ne marche plus, un petit bouton, un petit machin mécanique bidule. C'est très réparable, c'est généralement.
Ouais, je rebondis, réparable. Et il y a aussi la loi AGEC qui a parlé de l'indice de réparabilité. Je ne sais pas si vous avez un peu vu sur dans les magasins d'électroménager, électronique et tout ça, il y a un petit chiffre là qui dit si réparable, comment. Il y a un autre indice, je ne me rappelle plus c'est quoi, l'indice de durabilité, c'est ça, ouais. Combien de temps est censé durer l'objet. Il y a aussi, enfin, on travaille beaucoup avec la réparation, avec notre groupe. Voilà. Il y a le Repair Café aussi, qui répare très bien, ils sont très cool.
Ils sont d'ailleurs hyper bookés jusque janvier. Ils sont blindés. Et donc là, c'est tout des. C'est des pas pour éviter du déchet et quand on arrive à devoir jeter des trucs, donc rien n'est immortel, rien n'est indestructible. Recycler au maximum, on pourra parler un petit peu des problèmes du recyclage qui est le grand futur de l'humanité alors que c'est aussi un bon greenwashing. Et
on a fait le tour là.
J'ai perdu mon cerveau, voilà.
Ouais, on a fait le tour. Ben, on peut parler du...
Quand on jette bien. Voilà, j'allais dire, quand jeter au bon endroit, pas juste tout dans la même poubelle, recycler, déchetterie, donner.
Un exemple que j'aime bien donner à chaque fois, c'est Marseille, on est à 600 kilos, hein, c'est beaucoup. Il y a plusieurs villes même, hein, qui ont enclenché cette démarche. C'est au niveau local, hein, c'est pas juste une personne, c'est tout un collectif qui s'est engagé. Donc en Italie, il y a deux villes, je ne me rappelle plus des noms.
Trieste.
Ouais, voilà, ouais. Où ils sont passés de, 400 à 50 kilos.
Ouais.
53 kilos.
En
5 ans.
Comme quoi, c'est possible.
Mais oui, c'est en fait, et c'est moins cher. C'est tout le temps la discussion qu'on a tout le temps avec tous les groupes locaux et les institutions. Ça coûte moins cher en fait et ça pollue moins. Donc le problème c'est juste que c'est pas avantageux pour les grandes marques.
La transition est un peu compliquée, mais au final c'est vrai que
ça coûte pas
moins cher, plus sympa.
On a tout un livre qui parle dessus, ça s'appelle Territoire Zero Waste. Et on va sortir un livre d'ailleurs avec notre groupe là. On va peut-être faire une rencontre avec notre responsable plaidoyer d'ici octobre. Je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais c'est un livre qui passe sur les déchets.
Dans la même chose, c'est faisable en France, parce que là, du coup, on a pris l'étranger. C'est Chambéry qui est à 150.
Besançon. Il y a aussi c'est la ville là tout en haut.
Roubaix.
Ouais. Oui, Roubaix une bonne ville d'exemple. Il y a un documentaire qui parle de Roubaix sur le zéro déchet et ils font plein de trucs. Enfin, et en plus, c'est une ville réputée pauvre. Et alors qu'ils ont fait plein de choses que d'autres villes riches n'ont pas mis en place. Voilà.
Prenons exemple sur ces villes.
Ouais, il y a plein de documentation dessus, en tout cas. Mais ouais, je pense qu'on peut parler vite fait du recyclage, là, t'en as parlé.
Vite fait, le traitement de déchets. Oui, bah...
en quoi ça consiste, le traitement du déchet?
Bah, avant le recyclage,
il y a le... type de traitement?
60% de nos... Ouais, ça, 60% de nos déchets finissent en incinération et en enfouissement.
À Marseille, ouais, voilà. C'est 80%.
Donc, par exemple, pour le greenwashing, avant, on incinérait nos déchets. Maintenant, nous les valorisons en produisant de l'énergie.
Ouais, c'est exactement la même
chose. On les brûle toujours,
ouais.
Mais on chauffe des trucs avec. En fait, on fait comme d'habitude et on continue à cramer des machins. Et le recyclage, c'est... Alors, on va taper dessus, mais ça reste un geste vachement important. Parce qu'effectivement, ça peut être beaucoup d'économies de ressources. Par contre, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Et il y a extrêmement peu de matière qui est recyclable à 100% directement. Donc en fait, c'est la moins... pire des solutions pour vraiment quand on peut rien faire d'autre.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est utile, mais c'est énergivore et on manque déjà d'eau, on manque déjà d'énergie. Mmh. Si on développe le recyclage, ça va bloquer.
Ouais, le discours qu'on tient, en tout cas, c'est si on regarde la pyramide de la gestion des déchets, il faut vraiment regarder d'abord la prévention, mettre le point dessus. Et c'est le problème, c'est que les institutions mettent ça en dernier recours. C'est pour ça qu'on se bat, par exemple, à mettre en place des fonds de réparation pour avoir des pochettes, en fait, pour qu'il y ait plus de réparateurs, plus d'emplois dans ce domaine-là.
C'est producteur d'emplois, en plus.
Ouais, il y a tout un rapport, il y a plein de rapports, qui expliquent justement que ça crée plus d'emplois un incinérateur. L'exemple, c'est quoi? On a besoin de 10 personnes pour faire rouler un incinérateur. Alors que si on avait plein d'emplois sur la réparation, ça ferait fois 1000, je crois, de tout ça.
Oui, fois 100 à fois 1000.
Fois 100, fois 1000, je sais plus, mais un truc comme ça, ouais.
Et puis ça crée du lien social, de proximité.
Oui, exactement,
ça évite de foutre de la pollution un peu partout.
Ouais, il y a plein de villes, en tout cas, dans le monde entier, qui ont déjà fait ça.
C'est faisable, voilà, un petit peu de motif de tout le monde, et ça bascule assez vite. Et parce que beaucoup de gens seront d'accord avec nous qu'à Marseille...
Ouais.
Il y a un petit peu, il y a du boulot et une urgence.
Oui, surtout qu'on est à côté de la mer aussi, voilà. Donc.
Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie de tous les jours pour réduire vos déchets?
Un peu tout, hein. J'ai tout essayé.
Ouais, alors,
C'est bon, vous êtes à la phase finale de votre transition.
Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où genre j'ai vraiment pas de déchets pendant 6 mois. Genre quand je me mets vraiment dedans, je sors pas la poubelle pendant 6 mois. En fait, là, il n'existe pas la poubelle. Mais après, il y a des jours où, du coup, c'est un peu plus difficile de gérer les poubelles, la vie, en fait. Des fois, il y a des envies aussi. On peut pas. On achète peut-être un paquet de chips des fois.
On est à un moment où, en plus, où il y a plein de solutions. Il y a du vrac, des réparations. Il y a plein d'opportunités pour se lancer. Il faut y aller petit pas par petit pas. C'est pas forcément simple au début, mais ça devient un mode de vie qui est vraiment agréable et pas si difficile à avoir.
Ça peut être, c'est challengeant. Enfin, on commence petit à petit, le compost, après on achète du vrac. Bon, c'est vrai que le vrac ça coûte un peu cher, mais après du coup on va acheter d'autres produits qui coûtent moins cher, c'est-à-dire on va chercher des paniers légumes qui coûtent moins cher. Donc pour moi, en fait, l'argent que je sors ne change pas finalement.
C'est satisfaisant aussi de
ces
habitudes, ces nouvelles habitudes.
Il y a une communauté en plus.
Une bonne communauté pour s'échanger l'adresse.
Des ateliers, des machins, file plein de trucs.
Ouais, c'est un peu l'idée qu'on veut créer avec The West Marseille, c'est créer une communauté ensemble et grandir ensemble.
Ça fait de l'activité familiale aussi.
Ouais.
On fait ça avec les enfants, les enfants.
Du shampoing.
On s'amuse à faire des trucs. Les enfants adorent tripoter des bulles.
Ils adorent vraiment le zéro déchet, les enfants. Ils apprennent ça à l'école. Mais oui, après, si vous voulez suivre ma vie, je raconte ma vie. Non, mais en fait, actuellement, là, dans les locaux, il y a Shannon et Selim qui me filment. Et en fait, ils vont sortir un reportage un peu sur ceux qui sont un peu militants. Et moi, je parle un peu de la dimension zéro déchet. Donc, on peut faire un peu de pub pour eux. Donc, ça va bientôt sortir. Donc,
on pourra le regarder.
Voilà, vous pouvez regarder, voir un peu ce que je fais pour exemple, du coup, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Quoi.
Et ça sera voilà. Disponible où?
Sur plein de plateformes, sur notre, je pense sur notre site internet,
vous
sur le site
d'Alternativa,
sur enfin d'autres associations quoi. Ouais.
Alors on va devoir conclure cette émission.
Ouais.
Donc merci beaucoup d'être venu. Et ouais, donc les
plaisir.
Auditeurs, n'hésitez pas à suivre Zero Waste Marseille sur les réseaux sociaux, à consulter ouais. le site internet. Et aussi un peu de pub pour Radio Galère. Ce samedi 3 septembre, on va fêter les 40 ans de Radio Galère à la friche de la Belle de Mai. Donc toute la journée, il y aura plein d'événements. N'hésitez pas à venir, il y aura des stands aussi. Voilà. Ça sera la fête.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci de
Merci.
Nous avoir invité.
Bonne continuation.
Ouais.
Bonne soirée et
Bonne
bon
soirée.
Courage pour mettre en place des habitudes zéro déchet.
Oui.